Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Voilà, il y a un grand bienvenue à vous. Peut-être venez-vous de vous réveiller tranquillement, c'est dimanche. Hein, on ne vous en veut pas, vous avez bien raison. Et notez donc, nous sommes passés à l'heure d'hiver, il est 9h09. Et on est ensemble jusqu'à 10h avec Jean-Luc Moreau qui répond à vos questions autour, comme chaque dimanche, bien sûr. Tout à l'heure, nous aurons avec nous le directeur général de Jaguar Land Rover. Et on découvrira en fait cette initiative intéressante, Jean-Luc, hein, Land Rover qui mise sur l'hybride et l'éthanol.
Exactement. Bon, ils avaient des modèles hybrides dans la gamme et ils ont décidé pour la France de demander à l'usine de développer une version éthanol. Donc ça nous fait de l'hybride éthanol et c'est vrai qu'on marie le meilleur de deux mondes. Ils en ont profité d'ailleurs pour faire un petit sondage auprès des futurs clients ou des potentiels clients pour savoir ce qu'ils pensaient de l'éthanol. Vous allez voir, c'était intéressant.
On en parle tout à l'heure. On retrouvera aussi notre question pas si bête. Qui a inventé le klaxon? On verra ça. Et puis, on évoquera aussi le pneu hiver qui va devenir obligatoire en novembre 2021. Mais d'ici là, il va être recommandé d'équiper sa voiture de pneus hiver. Dans certaines régions, bien évidemment, on fera le point avec Dominique Stamfeld, qui est président du syndicat des professionnels du pneu. Et bien sûr, vos questions auto 32-16, l'appli RMC Direct Studio. C'est parti pour cette troisième partie avec Daniel qui nous attend. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour.
Bonjour Daniel, bienvenue.
Bonjour.
Alors
Daniel,
vous vouliez réagir en fait à cette flambée d'électrique en quelque sorte, hein, puisqu'on parle de plus en plus de ce nouveau carburant, en tout cas de cette nouvelle énergie qui va donc propulser les véhicules. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur ce sujet?
Mais tout simplement, que va-t-il advenir dans le futur concernant la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques à remplacer la TICP? Et qui doit être fléché bientôt, je suppose, sur la partie électrique, alors que jusqu'à présent, c'était uniquement fléché sur les combustibles fossiles, essentiellement.
Ouais, c'est une bonne question, parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'au début, c'était la TIPP, taxe intérieure sur les produits pétroliers, qui s'est transformée en TICPE, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Donc demain, si François invente le moteur qui marche à l'eau, on taxera l'eau, puisque ça sera un produit énergétique pour faire fonctionner le moteur. Donc bien évidemment, l'électricité sera comprise dedans. On ne voit pas comment l'État pourrait renoncer à 38 milliards de taxes, puisque la TICPE rapporte, on va dire, entre 38 et 40 milliards à l'État chaque année.
C'est beaucoup d'argent.
Voilà, si demain toutes les voitures étaient électriques, ce qui n'arrivera pas, bien évidemment, mais en admettant que ça soit le cas, vous imaginez un trou de 40 milliards d'euros dans le budget de l'État. C'est pas possible. Je pense que Emmanuel Macron doit déjà se retourner dans son lit en pensant à ça. Je pense qu'ils y ont pensé. Pour l'instant, on peut rien annoncer en la matière. Si vous dites on va taxer l'électricité qui va propulser les voitures électriques, vous tuez le marché qui est en train de naître. Donc, il n'en est pas question. Mais on a déjà préparé le terrain. Un compteur Linky, je pense que vous en avez un chez vous. Tous les mois, EDF vous envoie un petit truc en vous disant vous avez consommé tant pour l'électricité, tant pour faire la cuisine, tant pour le chauffage. Le compteur Linky, demain, il sera capable de vous dire vous avez consommé tant pour votre voiture électrique. Donc, qu'est-ce qui empêche, à partir du moment où on peut identifier la consommation en énergie d'un véhicule électrique, de mettre une taxe spécifique qui serait la TICPE?
Là, c'est valable si on recharge à la maison. Mais pour tous ceux qui rechargent au travail ou à d'autres endroits...
Vous aurez la même chose, c'est-à-dire que cette taxe existera. Alors, ça, c'est une hypothèse. Je vous dis sur le compteur électrique, mais...
Ils doivent se gratter la tête quand même, parce que c'est pas évident. Hein.
Ça peut très bien être sur le kilométrage de la voiture. Parce que si vous le faites sur le compteur électrique, celui qui, chez lui, a installé des panneaux solaires...
Oui.
Paf. Voilà, c'est gratos. Il payera pas de taxes. Donc, ça, c'est insupportable.
C'est insupportable.
Qui paye pas de taxes, c'est insupportable. Donc, on trouvera sans doute un moyen. Il y aura peut-être un compteur dans les voitures... différent du vrai compteur kilométrique qui mesurera les kilowatts consommés et vous paierez une taxe en fonction des kilowattheures consommés. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais je pense que là, il y en a peut-être un qui nous écoute aujourd'hui. Ils sont en train de se gratter la tête, justement, au ministère des Finances pour savoir comment...
Parce qu'au-delà de ça, ça va être une mesure, quand elle sera annoncée, qui sera hyper impopulaire.
Ah bah là, clairement, oui. Clairement, mais comme je vous dis, comment renoncer à 38 milliards d'euros ?
Ouais. Oui, et...
Daniel, vous avez une idée, vous, ou pas ?
Non, mais de toute façon, à terme, ça ne sera pas que la France, ça sera les pays...
Non, mais tous les pays, on est bien, pays. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Évidemment. Évidemment, ah oui. C'est un problème général.
Pour l'instant, on perçoit des aides pour la vente ou l'achat de véhicules électriques, mais il va falloir inverser la vapeur parce que à force, on va payer et il n'y aura pas de rentrée.
On va revenir en arrière. Mm-hmm. On va aller aux États-Unis au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, quand Henry Ford a lancé la Ford T, elle carburait à l'éthanol. Qu'est-ce qui se passait dans les campagnes américaines? C'est qu'il y avait des distilleries clandestines un peu partout, ou pas forcément clandestines, mais grosso modo, les gens fabriquaient leur carburant parce que de l'alcool à fabriquer, on sait comment ça se fait, c'est pas extrêmement compliqué. Mmh. Et puis l'État s'est dit, zut, il y a quand même un manque à gagner terrible. Bon, le pétrole existait déjà, hein. Ils se sont dit, bah voilà, ça serait mieux que les voitures fonctionnent à l'essence de pétrole. Au moins, ils ne pourront pas la fabriquer chez eux. C'est vrai que distiller du pétrole, ce n'est pas simple. Donc, ils passeront dans des stations-service. Et là, dans les stations-service, c'est facile de mettre une taxe. C'est un peu ce qui a poussé, en fait, à l'adoption de l'essence à la place de l'éthanol. On peut imaginer demain, pour l'électrique aussi, qu'ils trouvent une solution comme ça. Enfin, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a déjà quelques pistes. Hein. Comme je vous disais, en tout cas pour la France, le compteur Linky, c'en est une. Hein. Lui, il va pouvoir identifier ce que vous consommez sur votre voiture électrique. Ça m'intéresserait qu'on ait d'ailleurs un expert un jour des compteurs Linky qui nous explique comment ça marche.
Oui.
Comment le compteur arrive à identifier une source de consommation précise. Alors, sur un véhicule, ça sera facile parce que le véhicule dialogue avec la prise. Donc là, sauf si...
Tiens, on m'a installé mon compteur Linky hier pour tout vous raconter, tiens.
Vous avez fait de la résistance alors juste
bah non,
présent.
Bah pas oui. du tout. J'étais sur la liste. Je fais aucune résistance.
Voilà. Bon bah donc François saura, il nous en parlera dans les semaines qui viennent, le mois prochain, il saura combien sa voiture a consommé puisque vous l'aurez sur votre facture.
Ça c'est ah oui, d'accord.
Voilà.
J'aurais peut-être dû laisser l'installateur Enedis dehors. Alors bon, enfin bon, bref. Merci Daniel. Bon, écoute,
oui, une vraie bonne question, Daniel.
Ouais.
Une vraie bonne question. Hein.
On a peut-être 5 ans devant nous.
Ouais, bah, écoutez, ça, on verra. On va dire que les 5 années là, on les a. Je pense vraiment, on les a.
Le temps d'équiper tout en panneaux solaires
pour charger nos voitures.
Tout dépend à quelle vitesse va baisser cette taxe. En fait, on va baisser le comment dirais-je les revenus de cette taxe.
Complètement.
C'est ça la question.
Complètement.
Oui.
Merci Daniel.
Je vous en prie. Au revoir. Bonne journée à tous.
Merci.
Tiens, et puis, si on a un auditeur un peu spécialisé là-dedans qui a des informations ultra secrètes, n'hésitez pas sur Direct Studio.
Qui connaît bien le fonctionnement du Linky, qui nous explique comment il arrive à faire la différence.
Alors, racontez-nous.
Ouais.
Ah, non, c'est pas quelqu'un qui a écrit.
Non. Oui, non. Voilà. Ah, non, il n'a pas écrit. Non,
d'accord.
Non, justement, on cherche quelqu'un.
Mm-hmm. Ouais. 32-16, l'appli RMC Direct Studio, il est 9h16.
Pouette.
Et si vous voulez, oui, si ça vous fait plaisir, moi, il n'y a pas de problème. C'est la question pas si bête, maintenant.
Si je vous dis, con, vous avez l'air, c'est pas français.
RMC, votre auto.
C'est juste, mais c'est pas français.
La question pas si bête.
C'est une excellente question.
D'où le pouet-pouet.
D'où le pouet-pouet.
Bien évidemment.
Camion pouet-pouet.
Qui a inventé, puisque c'est la question pas si bête de ce dimanche, qui a inventé le klaxon, Jean-Luc Moreau?
Ouais, Jérémy, j'ai dit tout à l'heure.
Jérémy klaxon.
Jérémy klaxon. Voilà. Bon, merci.
Merci beaucoup. Voilà,
c'est, pour moi, c'est une chronique rapide.
Ouais.
Non, il faut remonter.
Drôle, surtout.
Ouais, c'était drôle. Hein. Il faut remonter au 19e siècle, en fait. On va aller en Angleterre pour une fois. Donc, on est en Grande-Bretagne. Et vous savez que le Parlement britannique, parce que les Britanniques font jamais rien comme tout le monde, ils ont toujours des idées un petit peu bizarres, avait mis en place ce qu'on appelait le Locomotive Act en 1865. En fait, il fallait, pour prévenir les dangers de l'automobile, parce que la voiture c'était très dangereux, hein, c'est pas nouveau, il n'y a pas que Anne Hidalgo qui trouve ça polluant et dangereux, le gouvernement britannique, le Parlement britannique le trouvait aussi il y a un siècle et demi. Donc ils imposaient en fait un homme à pied avec un drapeau devant chaque voiture. Hein. Et ça suffisait pas, il devait souffler dans une corne pour prévenir les passants que le véhicule arrivait.
Ah oui.
Donc c'était une sorte de klaxon
de
qu'on avait devant la voiture, parce qu'il y avait un mec avec un drapeau qui soufflait dans une corne quand quelqu'un allait traverser.
C'est fou ça.
Bah voilà.
Ah oui.
Bah pour diminuer les accidents, voilà une idée pour le délégué interministériel à la sécurité routière.
Oui.
La déléguée, puisque maintenant c'est une femme. Voilà. Bon, alors après, bon, on a décidé quand même. Alors, quand on a supprimé ce mec à pied, parce qu'au bout d'un moment, quand les voitures allaient quand même beaucoup plus vite, ça posait un problème d'avoir quelqu'un à pied devant, on a décidé d'intégrer ces avertisseurs sonores aux voitures. Alors, il y avait un peu de tout, quoi. Il y avait, on avait des, alors évidemment, le pouet-pouet, ça, tout le monde se souvient de, il y a encore sur les vieilles voitures, le truc, voilà, qui faisait un peu comme ça. Ensuite, le carillon, le sifflet. Ah ben, exactement.
Voilà, celui-là.
Ça, c'est votre voiture, ça, François.
Non, c'est la voiture de Kevin.
D'accord, ok.
Il vient de Ponto Combo avec sa vieille voiture.
Voilà. Donc, et en fait, il y a, on a électrifié les voitures. Et en fait, il y a un monsieur qui s'appelle Miller Reese Hutchinson, qui est un Américain, et était ingénieur en chef pour Thomas Edison. Et il dépose.
Ingénieur en chef klaxon.
C'est pas ça, pas tout à fait. En 1908, il dépose le brevet de l'avertisseur électrique. Alors, c'est un système électrique qui alimente un diaphragme en métal qui est relié à une corne qui amplifie le son. Et c'est le klaxon tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, c'est l'entreprise Lowell McConnell Manufacturing Corporation.
Donc, c'est beau.
Qui achète les droits de production. Et comme c'est un petit peu compliqué, ouais, vous avez un Lowell McConnell Manufacturing Corporation Electrical System dans la voiture. Ils se sont dit, tiens, on va trouver un nom qui définit cet avertisseur sonore électrique. Et ils se sont inspirés du grec ancien, que vous parlez parfaitement, François. Vous avez
étudié
le grec ancien. Donc, je vous apprendrai pas que klaxo,
oui,
ça signifie hurler, voilà. Et donc ils ont déposé ce nom de klaxon qui est devenu ensuite la Klaxon Company et qui fabriquait ces fameux klaxons électriques. Et c'est un mot qui est rentré dans le langage courant, en fait. Bon, c'est vrai qu'on dit pas un avertisseur sonore, on dit
non,
un klaxon.
Un klaxon, voilà. C'est vrai. Donc, c'est vrai.
Et même le,
oh,
le verbe
comme
klaxonner
ça, hein.
est devenu un verbe courant qui est dans le dictionnaire klaxonner.
Klaxonner, c'est dans le dictionnaire. C'est dingue.
Ouais, voilà.
Et bien voilà pour
ça appartient
klaxon.
Aujourd'hui, pour ceux qui s'y intéressent, à la société italienne FIAMM, la marque Klaxon, et c'est des fabricants de klaxon. Alors, j'adore les klaxons italiens, tiens. Voilà, ça va faire râler des gens que je connais, mais j'adore les tarararat, tarararat.
Ouais, c'est comme voilà. ça que ça ouais. fait. Alors non, ça c'est pas tout à fait ça, mais le cœur y est, Kevin.
Ouais,
c'est bien, bien joué.
Ouais, ouais.
Bravo.
Non, ça peut être, le truc que j'aime bien moi, c'est le son, c'est il sorpasso. Ça se dit comme ça, le dépassement, je crois.
D'accord.
En italien.
Jean-Luc, quel puits de science, vraiment. Moi, je pensais que vous étiez un puits tout court, mais
ouais.
Vous êtes aussi un puits de science. Ça fait plaisir. Alain est avec nous au 32-16. Bonjour Alain.
Bonjour Alain.
Oui. Bonjour messieurs.
Bienvenue,
bonjour.
Bienvenue Alain.
Merci. Bonjour. Donc je vous appelle parce que j'ai une question. C'est mon fils qui voudrait s'acheter un véhicule. C'est particulier, c'est parce que c'est rare. C'est une Subaru Impreza,
ouais.
2 litres essence.
Ouais.
Donc il veut pas de diesel, donc de toute façon on en trouve plein, mais on trouve très peu de 2 litres essence. Et je voudrais savoir, est-ce que, parce que je crois qu'il y a 1 litre 5 essence et 2 litres. Est-ce que c'est des véhicules, est-ce que ce sont des moteurs fiables, c'est un véhicule fiable, et pourquoi la rareté?
Bah pourquoi? Parce qu'on a mangé du diesel pendant des années. Subaru a tardé à sortir son moteur diesel, qui était assez réussi d'ailleurs. Hein.
Oui.
150 chevaux, là, qui est un bon moteur.
Oui.
Mais ils brillaient surtout par leur moteur essence turbo compressé avant. Vous savez qu'on l'a. Ah tiens, je vais dire, il y a prescription, mais je crois que j'ai dû avoir un petit record d'excès de vitesse dans la région de Marseille, tiens, avec une Subaru, la toute première arrivée en France à l'époque, la toute première Impreza arrivée en France, Impreza GT qui était en turbo, je suis passé à fond devant un radar. Bon, c'était à une époque où je me confesse, ouais, on roulait beaucoup plus vite que maintenant. Ça prenait 245 km/h, donc j'ai dû passer à 245 km/h devant le radar. C'était
d'accord.
Trop vite. Il y a une R21 turbo à l'époque. La gendarmerie avait ça qui a démarré, mais ils m'ont jamais rattrapé.
Ils vous ont jamais
quand
rattrapé.
Quand je suis arrivé au péage, je suis arrivé avec cette.
Ils vous cherchent encore d'ailleurs.
Oui, et je suis arrivé au péage avec cette voiture qui ressemblait à rien, parce qu'on aurait dit une banale berline.
Ouais.
Et les gendarmes qui étaient à chaque poste m'ont regardé passer et m'ont laissé passer, parce que pour eux, ça pouvait pas être un truc qui roulait à cette vitesse-là.
Oui.
Et Subaru, ils ont toujours. Bon, vous avez vu, ils ont brillé en championnat du monde des rallyes. Qu'est-ce qui faisait l'efficacité de leur voiture? C'était à la fois les quatre roues motrices et les moteurs boxers. C'est quoi un moteur boxer? C'est un moteur à cylindre opposé, donc qui permet d'avoir un centre de gravité plus bas dans les voitures. Donc ça, c'était, c'est vraiment en termes d'équilibre, c'était à l'époque la référence. Toujours à cette même époque, là, avec cette voiture-là, j'avais fait la course avec une Porsche dans une sur une petite route avec des virages. La Porsche derrière, malgré une puissance très nettement supérieure, avait du mal à suivre. Donc c'est vraiment ce côté-là qu'on privilégie quand on achète une Subaru. C'est un comportement dynamique, c'est un moteur dynamique avec des consos par contre qui vont avec. Hein.
Oui, bien sûr.
Quand les gendarmes ont eu sur autoroute, ils en ont eu des Subaru. Ils les ont toutes tordues une par une parce que ils roulaient trop vite. Mais surtout, ils avaient des consos qui étaient démentiels, quoi. C'est ce qui les a ramenés en arrière. Alors, pour votre fils, pourquoi on en trouve peu? Ben voilà, vous avez une partie des réponses parce que les gens sont passés au diesel et que des moteurs gourmands en essence, ben, tout le monde s'en est désintéressé.
Oui.
À part les versions WRX qui étaient des versions très puissantes, donc qui ont continué à se vendre pas trop mal et qu'on trouve encore un peu en occasion, les versions standards, ben, il y en a extrêmement peu.
D'accord.
Il y en a extrêmement peu. C'est pour ça qu'il y en a peu. Mais en même temps, sont à la fois des très bonnes voitures et des voitures très fiables.
D'accord. Moteur en ligue 5 ou 2 litres, c'est
2 litres. Ouais, non, non, c'est mieux un 2 litres.
Un 2 litres, oui. Parce que là, on en trouve essentiellement dans les pays frontaliers, donc Suisse, Belgique.
Oui, vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont en 4 roues motrices. Et en fait, oui. Dans ces pays-là, c'est pas un luxe d'avoir 4 roues motrices quand il neige l'hiver.
Oui. D'accord.
C'était la grande spécialité de Subaru, hein, c'est que pratiquement toute la gamme à une époque, enfin toute la gamme même était en 4 roues motrices.
Oui. Et lorsqu'on a trouvé un modèle, par exemple un véhicule belge, c'est pas complexe de
immatriculer
ce véhicule en France?
Non, s'il a été immatriculé en Europe, il n'y a aucun problème.
En Europe,
une réception à titre Europe. Dans un pays de la communauté, il n'y a aucun souci.
Oui, j'avais suivi votre émission dernièrement avec la complexité sur un document pour un véhicule d'origine italienne, il n'y a pas longtemps.
Ouais, alors, oui, alors il y a des pays d'où c'est pas pour obtenir la carte grise chez nous que c'est compliqué, c'est pour sortir la voiture, parce que les plaques dans certains pays appartiennent. Vous ne pouvez pas sortir avec les plaques du pays. En Italie, vous ne pouvez pas sortir. En Allemagne, vous ne pouvez pas sortir. Donc, ça veut dire que la voiture, si vous devez la transférer, il faut soit l'emmener sur un plateau, soit avoir une immatriculation temporaire. C'est tout un bins.
D'accord.
Donc, c'est ça qui est compliqué.
Oui, d'accord. Donc maintenant, si le véhicule c'est chez un revendeur en France, mais qui est d'origine étrangère, il n'y a pas de souci.
Problème. Il n'y a pas de problème.
On peut y aller, d'accord. Ouais.
Voilà, Alain.
Très bien, merci.
Merci à vous,
Alain. Au revoir.
Allez, au revoir.
À très bientôt. Et pour poursuivre ce rendez-vous auto sur RMC à 9h25, dans un instant, votre météo. Et puis ensuite, on découvrira cette initiative de Land Rover France qui mise sur l'hybride éthanol. Tiens, deux carburations hyper intéressantes. Et vous verrez que le résultat est plutôt sympa. On en parlera avec le directeur général de Jaguar Land Rover qui sera là. Et puis tout à l'heure, un spécial pneu hiver, puisque bientôt ils vont devenir obligatoires dans certaines régions de France.
Et puis on en parle tous les ans à l'occasion du changement d'heure. Donc c'est le changement d'heure aujourd'hui. C'est vrai que c'est l'occasion de se dire est-ce qu'on met les pneus hiver ou pas? Et pourquoi faut en mettre?
Heure d'hiver, pneu d'hiver.
Exactement, heure d'été, pneu.
Le été.
Eh ben voilà.
Ben voilà. On est bon, hein, quand même, hein. C'est beau.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Voilà, le retour de ce week-end des experts. Il est 9h31. Jean-Luc.
On a plein de monde qui nous.
Oui. Dans un instant, Jean-Charles sera là. On va retrouver sa question. Mais vous vouliez réagir sur le compteur Linky.
Oui.
Et sur la manière dont on aurait peut-être demain la possibilité de payer une taxe sur la recharge de nos véhicules.
Alors, il y a deux pistes. Alors, d'abord, il y a des vrais spécialistes du Linky qui nous disent le Linky, il fait des statistiques, mais il mesure pas précisément la consommation de chaque appareil. Bon. OK. Donc, il saura pas, François, que vous consommez de l'énergie pour votre voiture électrique. Ou peut-être que, aujourd'hui, vous savez, on peut mettre des algorithmes en place qui arriveraient dans la façon de consommer l'énergie à arriver à remarquer que c'est une voiture électrique. Mais demain, ce qui va se passer, c'est que les bornes qui seront installées au domicile vont être communicantes. D'ailleurs, l'aide sera accordée si la prise que vous installez est communicante. Et bon, avec une prise communicante, là, c'est facile de savoir.
Ça sera plus simple.
Une voiture électrique que vous avez branchée.
Et bien sûr. 32-16 pour toutes vos questions. Jean-Charles est avec nous. Bonjour Jean-Charles.
Bonjour Jean-Charles.
Oui, bonjour. Donc j'ai posé une question. En fait, je suis artisan taxi en province. Et je suis assez intéressé par l'énergie verte. Et j'ai essayé, il n'y a pas longtemps, un véhicule de grande capacité, un 8 places, c'est un Ford Transit Custom PHEV.
Oui.
Je fais de la ville, un peu de route, et de temps en temps, je vais un peu loin. Et donc, ce véhicule me permettait, au-delà des 50 km en tout électrique, comme ils ont un petit moteur de 1000 cm3, de recharger et de faire mon boulot. J'étais assez content. Il y avait tout ce qu'il fallait dans le véhicule. Et quand le concessionnaire m'a fait l'offre, j'ai demandé, mais normalement on a le droit à une prime, ou en tant que particulier ou en tant que professionnel. Et là, la responsable du garage me dit, ah mais non, mais ce véhicule, il n'y a pas droit, parce que l'État a défini les véhicules par véhicule, et ce véhicule, il n'y a pas droit. Alors je trouve que c'est pas trop cohérent. On nous pousse à aller vers...
Tout dépend du kilométrage homologué en cycle WLTP. Sur les hybrides rechargeables, il faut qu'il y ait 50 km pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'État. Mais 50 km homologués, si c'est en dessous, on ne l'a pas.
Eh bien, il ne l'a pas.
Voilà.
Donc voilà, vous avez votre réponse.
C'est juste ça. Et en fait, c'est ce qui va inciter les constructeurs. Vous voyez, tous les nouveaux hybrides rechargeables qui arrivent ont des batteries de plus grande capacité.
Voilà, bon, d'abord, pour arriver à ces 50
km. Exactement. D'abord, parce que le prix des batteries a baissé, ça permet aujourd'hui de mettre des batteries de plus forte capacité pour un prix plus réduit et avec un encombrement et un poids plus faible. Mais surtout parce que dans la réglementation, la dernière, effectivement, la limite, c'est 50 km.
D'accord. Donc, d'un côté, il y a les plaquettes commerciales, etc., etc. Et de l'autre côté, il y a la réalité en test qui va définir si on a le droit à la prime ou pas.
La réalité en test, c'est le cycle d'homologation WLTP. C'est ce nouveau cycle d'homologation. D'accord. Qui est plus près d'un usage réel que l'ancien cycle d'homologation qui s'appelait NEDC, qui lui était, on va dire le mot, qui était bidon, quoi. Quand vous annoncez des consos de 3 litres au 100, on sait très bien que dans la réalité, c'était pas ça. D'accord. Il était trop facile par rapport à la réalité. Le nouveau cycle, il est plus proche d'une utilisation réelle. Et d'ailleurs, il y a une partie en laboratoire et il y a une partie sur route pour mesurer à la fois la pollution et les consommations.
Donc tous les véhicules passent à travers ce test.
Oui, tous les véhicules.
C'est le juge de paix.
Exactement. Celui qui arrive à faire plus de 50 km, il a la prime. Celui qui fait moins de 50 km en électrique, il l'a pas.
Et vous trouvez ça normal qu'il y ait une différenciation?
C'est-à-dire si vous avez si le vôtre il fait 49 et que
l'autre fait
pour 51. Un kilomètre de plus, on a 1000 euros de prime ou 2000 euros de prime. Franchement, c'est vrai que c'est un peu raide, mais bon, ça va obliger. Je pense qu'à mon avis, les constructeurs vont redimensionner. Le problème, c'est que ce modèle-là, il a été conçu un petit peu en amont de cette réglementation. Ouais. Et puis, c'est une réglementation française. Est-ce que pour un véhicule qui est vendu au niveau mondial, on va s'adapter à la réglementation française? C'est bête parce qu'il tombe juste à côté de la plaque. Mais malheureusement, voilà.
Ok.
Vous savez quoi, merci. Oui, voilà. Bonne journée.
Merci Jean-Charles.
Au revoir Jean-Charles.
Et à 9h36 sur RMC, Jean-Luc, on va découvrir cette initiative de Land Rover qui mise sur l'hybride et l'éthanol avec notre invité Steven de Ploé qui est là. Bonjour.
Bonjour Steven.
Bonjour tout le monde. Oui. Merci pour cette invitation.
Premier, alors, seul constructeur en France aujourd'hui à proposer en série des modèles qui fonctionnent à l'éthanol. Pourquoi d'ailleurs proposer du flexfuel et sur quel modèle?
Chez Jaguar Land Rover, on a toujours été pionniers de nouveaux technologies. Avec le Range Rover Sport, on était un des premiers constructeurs de proposer une voiture hybride rechargeable. Et vous savez, avec la Jaguar I-Pace, on était seulement le deuxième constructeur premium dans le monde à lancer un véhicule 100% électrique. Mais on s'était demandé qu'est-ce qu'on peut faire vraiment de spécifique pour le marché français. Et la réponse était le flex fuel, aussi connu comme le super éthanol ou les 85. Ouais. C'est un carburant qui est 100% français, qui est écologique, qui est économique et certainement une solution plutôt intelligente dans le contexte de la fiscalité française dont vous venez de parler.
Ouais.
Donc en termes d'offres, on commencera chez Land Rover sur le Range Rover Evoque et sur la Land Rover Discovery Sport, qui sont nos best-sellers. Et côté Jaguar, c'est une petite première, mais on va annoncer formellement le 28 octobre qu'on va lancer aussi ces technologies sur la Jaguar E-Pace.
Ah, c'est un scoop ça, parce que personne ne le savait.
Un petit scoop, oui.
D'accord. Alors, vous avez fait un sondage auprès des automobilistes et on se rend compte que Il y a une très forte demande de véhicules première monte en E85. C'est énorme d'ailleurs. C'est quel chiffre
Oui, on a comment dire, ce projet a été né par le désir des Français qui ont dit, bien sûr, on veut des voitures qui émettent moins de CO2, moins de NOx. Mais aussi, on avait à l'interne un projet déjà parce qu'on a une usine au Brésil. Et vous savez, au Brésil, l'éthanol est là depuis des années. C'est le carburant le plus utilisé. Donc, on a fait cette étude avec Opinion Way, et ce qui a démontré, à notre surprise, qu'il y a 85% des Français, des conducteurs français qui réclament les 85 comme une option sur leur prochain véhicule. Donc, ça sera une offre qui, pour le moment, est unique sur le marché français.
D'accord. Bon, avec tous les avantages dont nous on parle souvent, diminution des émissions de CO2, diminution des particules, diminution des oxydes d'azote, carburant, vous l'avez dit, qui est fabriqué en France. D'ailleurs, quel avantage, parce que aujourd'hui le marché de l'éthanol, c'est surtout les boîtiers qui sont mis en deuxième monde, quel avantage d'avoir un véhicule qui est livré d'origine par le constructeur adapté à l'éthanol ?
Bonne question, parce que certainement pour une solution qualitative, il faut que vous avez la garantie, bien sûr, du constructeur, et il faut encore toujours une solution qui est intégrée. Donc, sur le plan technique, on a ajouté des capteurs pour mesurer exactement le pourcentage de la teneur en éthanol, pour avoir plus de précision sur les consommations, sur les émissions, mais on a aussi fait pas mal de changements sur le plan du réservoir, des tuyaux, les soupapes et tout ça. En termes d'avantages pour le client, ça vous donne bien sûr la certitude et le respect des normes anti-pollution qui sont extrêmement importantes aujourd'hui, mais ça vous garantit aussi l'abattement de 40% du CO2 qui fait que sur la plupart des véhicules, et certainement les nôtres chez Jaguar Land Rover, de ne pas payer le malus.
Alors avantages fiscaux, parce que là on parle de quand même deux gros véhicules qui sont soumis au malus dans leur version essence, un malus qui doit être un peu bonbon d'ailleurs. Et là, qu'est-ce que on a comme avantages fiscaux avec ces modèles qui sont flex fuel?
Oui, donc l'avantage premier, bien sûr, c'est l'abattement sur le CO2. Donc, grâce à la façon que l'éthanol est produit, qui prend du CO2 de l'air, on a un abattement de 40%. Donc, si je donne un exemple tout simple, normalement, ces véhicules-là, ils ont un CO2 autour de 200 grammes. Donc, avec cet abattement de 40%, on arrive à 120 grammes, qui fait que la voiture est exonérée du malus. Donc, on paye zéro malus. Mais à côté de cela, il y a quelques autres avantages qu'on a. On a l'exonération de la part régionale de la carte grise pour la plupart des régions. Et pour les entreprises, aussi ces véhicules-là permettent une récupération du TVA à l'auteur de 80%. Et peut-être un avantage à côté, dont l'utilisation de la voiture dans le quotidien, mais qui est quand même très important, c'est que le prix du carburant, du superéthanol, aujourd'hui est autour de 65 centimes, qui fait que ça soit à peu près la moyenne ou la moitié de ce que vous payez pour le diesel ou pour l'essence. Donc la somme de ça fait un paquet très 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 fort en termes d'avantages fiscaux monétaires.
Et là, le mariage de l'hybride et de l'éthanol, pourquoi avoir monté fait des versions flex sur des modèles qui étaient déjà hybrides?
Oui, donc c'est une hybride légère, une technologie qu'on vient d'introduire de nouveau sur ces trois volumes-là, qui permet bien sûr déjà de diminuer le niveau de CO2 sur les véhicules de base, et à ça se rajoutent bien sûr tous les avantages dont on vient de discuter sur le plan flex fuel.
D'accord. Bon, les prix, évidemment, on n'est pas dans de la petite voiture pour monsieur tout le monde. Est-ce que ça augmente considérablement le prix, le fait d'être en flex fuel par rapport à la version hybride normale?
Non, absolument pas. On a décidé, on a fait le choix parce que on pense vraiment que c'est un produit qui peut être très 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 impactant sur le marché français. Donc les prix aujourd'hui, ils sont complètement alignés avec le véhicule de base. D'accord. Donc ça veut dire sur un Disco Sport, on commence à 45 800 €. Et sur un Range Rover Evoque, on est autour de 46 050 €. Donc c'est le même prix qu'on avait au début avec les véhicules essence.
D'accord, avec même garantie, en fait, tous les avantages qu'on peut avoir d'un véhicule direct constructeur adapté à l'éthanol.
Absolument. Absolument. Donc, comme les voitures de base, on est sur 3 années de garantie. Donc toutes les garanties, d'accord, et tous les avantages. Les commandes, on peut déjà les mettre sur Land Rover, c'est déjà à partir de fin août. Sur Jaguar, comme je disais, le petit scoop là, ça va arriver dans quelques jours. Et les livraisons vont commencer début 2021.
Merci beaucoup, Steven.
Merci, Steven. Bonne journée. Au revoir.
Intéressant.
Voilà. Oui, mais non, mais c'est bien. C'est bien. Alors là, bon, évidemment, c'est des véhicules un petit peu exclusifs, mais c'est bien qu'il y ait un constructeur qui dise, on va occuper le terrain. Ça va peut-être inciter les autres à venir.
Voilà. On revient dans un instant. Jean-Luc James sera avec nous. Il va nous parler, de sa 308 de 2019 qu'il a acheté. Et puis, on retrouvera ce dossier sur les pneus hiver. On en parle dans un instant. Vous allez voir, la législation va changer sur ce sujet. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Voilà, il est 9h46, c'est RMC, dernière ligne droite de votre week-end des experts auto. Dans un instant, on va parler de pneus hiver, mais auparavant, on accueille James de Haute-Garonne. Bonjour James.
Oui, bonjour.
Bonjour. Bienvenue. James.
On vous écoute, bonjour. James.
Alors, je vous appelais parce que j'ai un petit problème. J'ai acheté une 308, 1 litre de PureTech, donc de 2019.
D'accord.
Le moteur 130, donc ça fonctionne super bien, c'est très confortable, c'est parfait. Ça consomme un peu par contre, mais bon, ça...
Vous consommez combien?
À peu près 8 litres en
moyenne. Bah vous pouvez gagner 1 litre et demi fastoche. Hein. Il va falloir juste vous calmer un petit peu sur les accélérations. Non, mais c'est un moteur avec lequel on peut descendre à des consommations de 6 litres, 6 litres et demi.
Oui, dès que je suis sur l'autoroute, c'est super. Par contre, ça consomme rien du tout.
Voilà, mais là, vous devez dans votre façon de conduire, il y a sans doute des choses à améliorer. Bon, sinon...
Ouais, c'est sûr. Avant, je l'ai acheté parce que je voulais bénéficier de la prime à la conversion. Donc, j'ai fait attention à ce qu'elle soit bien en dessous, enfin, qu'elle réponde bien aux critères.
Ouais,
donc, je crois qu'elle est à 103.
Émission de CO2, donc voilà, ouais. D'accord.
Et mon ancienne voiture... C'était une 307 HDI 2 litres, 90 chevaux, de 2003.
Ouais.
Et elle a 230 000 km, donc bientôt, je ne vais plus pouvoir m'en séparer. Et le problème, c'est que la carte grise comme c'est, de la 308, comme c'était une voiture d'import, elle a mis 7 mois en fait, à se faire. Donc, du coup. J'ai aucune manière de savoir si la prime...
Si elle est éligible, voilà.
Voilà. C'est-à-dire que la seule solution que j'ai aujourd'hui, c'est de prendre le risque de détruire ma 307 qui fonctionne encore, hein, qui peut, ou que je pourrais au moins revendre pour environ 1500 euros d'occasion. C'est-à-dire, c'est la faire détruire et prendre le risque qu'ensuite, quand je vais avoir la nouvelle carte grise de la 308, que mon dossier passera. Et le problème, c'est que si le dossier ne passe pas, j'ai perdu une voiture comme ça, pour rien.
Ah oui, mais sauf que là, je peux pas moi vous donner de réponse. Hein. C'est pas moi qui traite votre dossier. C'est ça le vrai problème.
Oui, mais peut-être juste par rapport aux critères dont j'ai parlé.
Non, mais qu'est-ce qu'elle a comme date? Elle est immatriculée en France, votre 307.
Oui.
Bon, qu'est-ce qu'elle a comme date sur la carte grise d'immatriculation? C'est ça qui va compter.
Décembre 2003.
C'est quoi? C'est 2003, 2004, c'était quand? À force, je m'y perds.
Alors là,
sur la prime à la conversion.
Bon, vous savez quoi? Parce que c'est vrai que c'est un peu technique là. Ce qu'on va faire, James, c'est qu'on va regarder tranquillement. Jean-Luc hors antenne va jeter un œil et on essaiera de vous apporter une réponse personnalisée parce que c'est vrai que là, ça demande quand même peut-être. Jean-Luc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être une expertise un petit peu plus poussée.
Non, je suis juste en train de regarder le texte. Voilà, service public, prime à la conversion. On va regarder tout de suite parce que les règles ont changé en fait elles ont changé au mois d'août.
Oui.
Et puis ils ont fait un truc. Très complexe pour que justement on puisse pas comprendre tout de suite de quoi. Alors véhicule ancien à détruire. Par contre le site est bien fait, voyez. Véhicule à détruire. Donc vous devez l'avoir. Vous l'avez déjà depuis un petit moment. Bon,
et puis vous restez avec nous parce que dans un instant on va parler de pneus hiver.
Ouais, on va parler de pneus hiver.
Ça aussi c'est intéressant parce que vous savez qu'il y a une législation qui va arriver et qui va nous obliger à installer dans certaines régions des pneus hiver. On en parle avec notre invité dans une minute.
Et Jean-Luc, véhicule diesel, voilà, j'y suis, bougez pas. Première immatriculation avant janvier 2006, donc c'est bon pour votre voiture.
Donc c'est bon, on est d'accord.
Oui, c'est bon.
Parfait. James, merci. Allez, il est moins 10. On enchaîne avec Dominique Stumpfel, qui est le président du syndicat des professionnels du pneu. Jean-Luc, on va bientôt, dans certaines régions, être obligé d'installer des pneus hiver.
Exactement. Alors ça, il y avait ce qu'on appelait la loi montagne, qui a été votée en 2019, mais il n'y avait pas les décrets d'application. Et le décret est passé cette semaine, le 16 octobre 2020 et on va avoir une obligation dans certaines régions de rouler l'hiver avec des pneus hiver, ce qui est déjà le cas dans certains pays en Europe d'ailleurs. Dominique, vous êtes un petit peu à l'origine de tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps à appliquer une réglementation qui existe chez certains de nos voisins qui n'ont pas forcément plus de montagne que nous d'ailleurs?
Alors c'est effectivement toute la filière du pneumatique qui s'est mobilisée pour obtenir cette loi. Vous avez raison de souligner que tous les pays à l'est de la France, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg font cette obligation et elle n'existait pas en France.
Alors ça ne sera pas obligatoire tout de suite, hein. On va rassurer ceux qui ne sont pas encore équipés. On nous laisse un délai de un an, c'est ça?
Oui, c'est ça. L'obligation sera faite en novembre 2021 et elle concernera 48 départements, essentiellement dans les massifs montagneux. Ces 48 départements seront concernés en totalité ou partiellement et ce seront les préfets en relation donc avec les autoroutes routières qui décideront quelles routes ou quelles communes seront concernées.
D'accord, donc il faudra se renseigner quand même avant ça. Ça veut dire quoi, obligation? Ça veut dire, est-ce que tout le monde sera obligé d'avoir des pneus hiver ou est-ce que, comme dans certains pays, je ne serai pas obligé d'avoir des pneus hiver, mais s'il neige, je n'aurai pas le droit de circuler si je ne suis pas équipé?
Non, tout le monde sera obligé d'avoir un équipement hiver. Donc la meilleure solution et la plus confortable, c'est effectivement d'avoir 4 pneus hiver sur son véhicule. Mais la loi autorise également la possibilité d'embarquer un jeu de chaîne. Alors on sait que quand il faut monter des chaînes en bas d'une station de sport d'hiver, c'est très compliqué.
Oui, surtout qu'on ne s'est pas entraîné avant, on se dit ça ne m'arrivera pas, quoi.
Mais c'est une possibilité qui est donnée. Et ce qu'il faut bien signaler aussi, c'est que ça ne concerne pas que les résidents, mais les gens qui traversent ou qui se dirigent vers des régions concernées.
Alors quand on parle de pneus hiver, on parle de quoi? Est-ce que les nouveaux pneus 4 saisons, là, ils sont considérés comme des pneus hiver?
Alors les pneus hiver, ce sont des pneus qui pour le moment sont badgés M plus S, Mud plus Snow, et pour certains qui comportent déjà un petit logo avec une montagne à trois pics et avec un flocon. Donc dans un premier temps, le pneu M plus S est accepté et dans un deuxième temps, à partir de 2024, ce seront les pneus qui comportent ce logo avec la petite montagne qui seront uniquement acceptés. Et les pneumatiques qui portent ce logo sont soit des pneus hiver, soit un certain nombre de très bons pneus 4 saisons.
D'accord. Oui, parce qu'il y a des véhicules qui ne peuvent pas être équipés en pneus hiver. On est d'accord. Comment ils vont faire ceux-là?
Alors, il y a peu de véhicules qui ne peuvent pas être équipés en pneus hiver. Les manufacturiers ont créé des gammes très, très complètes, parce qu'il n'y a pas que la France qui est concernée par l'équipement hiver, évidemment. D'ailleurs, il faut signaler que si les utilisateurs, si les automobilistes ont un véhicule un peu particulier, avec des dimensions très rares, il faut les encourager à anticiper, parce que parfois, en milieu de saison, c'est impossible de trouver les pneus et c'est quand même bête de ne pas pouvoir se déplacer parce qu'on a oublié d'acheter les pneus.
D'accord. On peut d'ailleurs, sur un véhicule où on a des pneus avec des dimensions un peu exotiques, changer les jantes éventuellement et passer sur des dimensions qui ont été homologuées sur le véhicule mais qui sont plus courantes.
Oui, alors on peut avoir des véhicules qui ont été équipés parce que c'est des versions UP ou parce qu'il y a eu une option dans des dimensions relativement importantes. Et on peut revenir en fait à la dimension de base. Donc ce qu'il faut vérifier, c'est que cette dimension-là, elle figure bien dans le carnet de bord du véhicule.
Bon, typiquement là, ça y est, on est au changement d'heure. C'est le moment de changer, de passer en pneu hiver pour ceux qui habitent dans des zones où il risque d'y avoir un peu de neige sur la route ou même simplement des conditions plus glissantes ou du froid.
Alors techniquement, un pneu été perd ses facultés d'adhérence en dessous de 7 degrés. Donc c'est toujours compliqué de savoir quand il va faire plus ou moins 7 degrés. Ouais. Donc l'idée qu'on a eue, c'est tout simplement d'avoir un slogan très très simple qui est heure d'hiver, pneu d'hiver. Donc effectivement, comme on est à l'heure d'hiver, c'est le moment de penser à s'équiper.
D'accord. Ça coûte combien un train complet de pneus hiver? Vous allez me dire, ça dépend des marques, mais c'est beaucoup plus cher qu'un pneu été, un pneu hiver?
Alors ça dépend des marques, effectivement, mais c'est de l'ordre de 20%.
Et un pneu 20% plus cher.
20% plus cher. Et un pneu 4 saisons, c'est entre 15 et 20% également.
D'accord. Bon, un pneu 4 saisons, comme son nom l'indique, hein, on peut le garder toute l'année.
On peut le garder toute l'année, mais il faut bien préciser quand même que c'est un compromis. Alors, c'est un excellent compromis, mais ça veut dire qu'en été, c'est moins précis qu'un pneu été.
Et en hiver, c'est moins performant qu'un pneu hiver.
Et en montagne, on peut avoir un pneu 4 fromages si on fait une fondue, non? Non. Alors, voilà. D'accord, ok.
Merci beaucoup. Désolé Dominique, hein, vous savez qu'au bout d'un moment, on l'a perdu. Dominique Spanfeld, donc président du syndicat des professionnels du pneu, merci. Jean-Luc Moreau, merci pour cette blague qui conclut parfaitement cette émission. On sera là bien sûr le week-end prochain et dans un instant, enfin quelqu'un de sérieux et de talentueux dans ce studio, parce que là franchement, ça commence à être le vide sidéral. Jean-Christophe Drouet là, bonjour Jean-Christophe.
Salut les copains, salut François, salut Jean-Luc, j'ai saigné du nez d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Là je pense qu'on a des hémorragies nationales, en fait c'est horrible cette histoire.
Les paris RMC dans quelques instants, nous allons tenter de vous faire gagner comme tous les dimanches un petit peu d'argent autour de la Ligue 1 et essentiellement la huitième journée, et notamment la rencontre entre Lyon et Monaco, c'est dans quelques instants.
Un bon dimanche avec RMC, mettez bien vos pendules à l'heure, 9h56, et j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Portez-vous bien, à très vite.
Les paris RMC, 10h-11h.